L'opéra à Venise.
Heure vénitienne, série produite et réalisée à la fin des années 1960.
Nous sommes ici à la Fenice.
Nous avons pu visiter
des hauts lieux du chant, comme la Scala de Milan et le San Carlo à Naples, et nous écoutons ce soir un opéra de Donizetti,
la peinture, les écoles de peinture, l'architecture,
ce théâtre est un des plus ravissants.
Marcel Brion, historien d'art, et René Huyg, philosophe de l'art, président de la commission internationale d'experts de l'UNESCO pour la sauvegarde de Venise,
était nos guides. 1836,
après une longue journée de déambulation et retour dans la ville,
qui est vraiment ravissant. Les cinq étages de loge nous rappellent la belle époque où
heure vénitienne, l'opéra à Venise, première diffusion sur France Culture le 2 octobre 1969.
Dans les loges, le peuple dans la platea. C'est-à-dire
c'était Heure vénitienne, l'opéra à Venise, une émission proposée et réalisée par Bronislav Horowitz, avec Marcel Brion et René Huyg de l'Académie française, avec des textes de Carlo Goldoni, Benedetto Marcello, Richard Wagner, et des œuvres musicales de Francesco Cavalli, Claudio Monteverdi, Baldassare Galuppi, Giuseppe Verdi, Richard Wagner. Première diffusion sur France Culture le 2 octobre 1969. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, la rubrique Les Nuits de France Culture.
Par terre, comme on disait en France, et eh bien les nobles en profitaient pour cracher sur ce petit peuple, qui d'ailleurs ne s'offensait pas plus pour ça que pour autre chose.
C'est évidemment un détail piquant. Je ne crois pas que le public du parterre aujourd'hui accepterait d'être traité ainsi, mais il y a toujours eu à Venise une sorte de gentillesse, de bonhomie, qui a associé les classes les unes avec les autres et qui a fait vraiment une sorte de démocratie dans laquelle chacun voisinait dans le théâtre, qui lui payait sa place ou qu'il ne lui pas payait. L'essentiel pour eux, c'était l'unanimité qui se créait. Et cette unanimité était créée par l'amour de la musique. Car les Vénitiens ont toujours adoré la musique d'orchestre naturellement, mais aussi le bel canto. Et c'est dans cet amour que depuis la platea jusqu'au cinquième étage de loge se répandait cette même vibration d'admiration et d'enthousiasme.
De cet Andromède qui vient d'être mentionné, Andromède de Manelli et Ferrari, il ne reste rien, même pas un souvenir, si peut-être la partition dort quelque part sous une épaisse poussière de la bibliothèque Marciana ou de celle du conservatoire Benedetto Marcello. Mais puisque nous venons d'évoquer ces premiers théâtres publics vénitiens, premiers théâtres publics d'opéra, évoquons également un événement d'importance, s'il est aujourd'hui oublié, raison de plus pour le rappeler, qui a été la création en 1641 d'un opéra de Francesco Cavalli, Didone. Francesco Cavalli est également un musicien oublié, et pourtant, nous autres Français, nous aurions tort de l'oublier, puisque en 1660, il est venu à Paris, mais il a donné au Louvre, au Théâtre du Louvre, son opéra Xerxes. C'est un opéra qui a permis une chose très pittoresque d'ailleurs, parce qu'à cette époque-là, Don Filippo Melani, un moine castra, qui était un des agents de Mazarin, a joué dans cet opéra le rôle d'une reine amoureuse d'Xerxès et déguisée en homme. Eh bien, en 1641, Francesco Cavalli a donné au théâtre San Cassian Didon. Didon est de cet opéra, nous extrayons, pour le rappeler aujourd'hui, le merveilleux Lamento de Cassandre.
Thank you.
L'année suivante, en 1642, un autre événement marqua la vie lyrique de Venise. Au théâtre San Giovanni e Paolo, appartenant à la famille Grimani, parce que chaque famille noble exploitait à cette époque-là un théâtre, généralement un théâtre d'opéra, un événement s'est produit, la création du couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi qui, on le sait, a marqué de sa puissante personnalité tout le XVIIe siècle musical. Monteverdi a marqué de sa personnalité le XVIIe siècle, le XVIIIe a été marqué à Venise par Antonio Vivaldi, le célèbre prêtre roux. Antonio Vivaldi, qui en dehors de la musique religieuse, a composé environ 45 opéras, dont beaucoup sur des livrets de Carlo Goldoni. Et Carlo Goldoni, dans ses mémoires, nous raconte sa visite chez Vivaldi.
À Venise, on ne rouvre les salles de spectacle qu'au commencement du mois d'octobre. Mais il y a, pendant les 15 jours de la foire de l'Ascension, un grand opéra, et quelquefois deux, qui ont jusqu'à 20 représentations. Le noble Grimani, propriétaire du théâtre de Saint-Samuel, faisait représenter dans cette saison un opéra pour son compte, et comme il m'avait promis de m'attacher à ce spectacle, il me tint parole. Ce n'était pas un nouveau drame qu'on devait donner cette année-là, mais on avait choisi la Griselda, opéra d'Apostolo Zeno et de Pariati. Et le compositeur, qui devait le mettre en musique, était l'abbé Vivaldi, qu'on appelait à cause de sa chevelure « il prete rosso », le prêtre roux. Il était plus connu par ce sobriquet que par son nom de famille. Cet ecclésiastique, excellent joueur de violon et compositeur médiocre, avait élevé et formé pour le chant Mademoiselle Giraud, jeune chanteuse née à Venise, mais fille d'un perruquier français. C'était elle qui devait représenter le rôle de Griselda. Monsieur Grimani m'envoya chez le musicien pour faire dans cet opéra les changements nécessaires, soit pour raccourcir le drame, soit pour changer la position et le caractère des airs au gré des acteurs et du compositeur. J'allais donc chez l'abbé Vivaldi. Je me fis annoncer de la part de son Excellence Grimani. Je le trouvai entouré de musique et le bréviaire à la main. Il se lève, il fait le signe de la croix, en long et en large, met son bréviaire de côté et me fait le compliment ordinaire « Quel est le motif qui me procure le plaisir de vous voir, monsieur ?» Son Excellence Grimani m'a chargé des changements que vous croyez nécessaires dans l'opéra de la prochaine fois. Je viens voir, monsieur, quelles sont vos intentions. Ah, Griselda! J'aurai le plaisir de m'occuper dans un exercice qui doit m'amuser et j'aurai l'honneur de commencer sous les ordres de monsieur Vivaldi. L'abbé reprend son bréviaire, fait encore un signe de croix et ne répond pas. Monsieur, lui dis-je, je ne voudrais pas vous distraire de votre occupation religieuse. Je reviendrai dans un autre moment. Je sais bien, mon cher monsieur, que vous avez du talent pour la poésie. J'ai vu votre Bélisaire, qui m'a fait beaucoup de plaisir, mais c'est bien différent. On peut faire une tragédie, un poème épique, si vous voulez, et ne pas savoir faire un quatrain musical. Faites-moi le plaisir de faire voir votre drame. Oui, oui, je le veux bien. Où est donc fourrée Griselda? Elle était ici. Deus in adjutorium meum intende. Domine, domine, domine. Elle était ici tout à l'heure. Domine ad adjuvandum. Ah, la voici. Voyez, monsieur, cette scène entre Gualtiero et Griselda. C'est une scène intéressante, touchante. L'auteur y a placé à la fin un air pathétique. Mais Mademoiselle Giraud n'aime pas le chant langoureux. Elle voudrait un morceau d'expression, d'agitation, un air qui exprime la passion par des moyens différents, par des mots, par exemple, entrecoupés par des soupirs élancés, avec de l'action, du mouvement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Eh bien, monsieur, sur le champ, je vais vous satisfaire.
Sur le champ?
Oui, monsieur, sur le champ. L'abbé, en se moquant de moi, me présente le drame, donne du papier et une écritoire, reprend son bréviaire et récite les psaumes et les hymnes en se promenant. Je relis la scène, que je connaissais déjà. Je fais la récapitulation de ce que le musicien désirait. Et en moins d'un quart d'heure, je couche sur le papier un air de 8 vers partagé en deux parties. J'appelle mon ecclésiastique et je lui fais voir mon ouvrage. Vivaldi hérite son front, il relit, il fait des cris de joie, il jette son office par terre, il appelle Mademoiselle Giraud. Elle vient, « Ah !» lui dit-il, « voilà un homme rare, voilà un poète excellent, lisez cet air, c'est monsieur qui l'a fait ici, sans bouger, en moins d'un quart d'heure. » Et en revenant à moi, « Ah, monsieur, je vous demande pardon. » Et il m'embrasse et il proteste qu'il n'aura jamais d'autre poète que moi. Il me confia le drame, il m'ordonna d'autres changements, toujours content de moi. et l'opéra réussit à merveille. Me voilà donc initié dans l'opéra, dans la comédie et dans les intermèdes, qui furent les avant-coureurs des opéras comiques italiens. Carlo Goldoni.
Bien, l'abbé Vivaldi n'a pas tenu sa promesse et il a eu d'autres poètes après Goldoni, Omsalvi, Metastasio et Zeno e Silvani. Par contre, un qui est resté fidèle à Goldoni, c'est Baldassare Galuppi, surnommé il Buranello, car il était né dans l'île de Burano, à côté de Venise, et qui a composé, sur des livrets de Goldoni, 20 opéras. 20 opéras, dont ce ravissant philosophe de campagne.
Mi palpita brillante il cor, son pien di giubilo, brillante il cor.
Dal cena le pilagione mi viscere, mi sveglia d'agita speranza e ardor. Mi sveglia d'agita speranza e ardor. Sposino mobile, per voi son misera, sposino mobile, per voi son misera, mi sento mordere dal mio d'amor.
Vieni al mio seno, sposina amabile.
Dammi le spine, la chiave consola.
Dolce e sola, felice amor. Dolce e sola, felice amor.
Parto, parto, il genitore.
Perché partir? Perché partir?
Il mio rosone non mi lasciare star qui. Il mio canzone non mi lasciare star qui.
Vergognosa età, la poveretta se ne fuggì.
Se fosse il pelo capri, io non sapevo tornar così.
La ricerco e non la trovo, oh che smania, insegni e provo. Dove diavolo sarà, dove diavolo sarà? L'ho cercata su e giù, l'ho cercata qua e là. Voi ridete, come va?
Fino adesso state qua, fino adesso state qua.
Dove andata, è andata là. Dove va, dove va? Quando era la troverò e con me la condurrò. Con me, la condurrò.
Il y avait à Venise, au XVIIIe siècle, un grand seigneur, compositeur d'opéra et de psaumes, Benedetto Marcello. C'était aussi un homme d'esprit qui nous a laissé un tableau pittoresque de ce qu'étaient les spectacles d'opéra de son époque. Les spectacles d'opéra à Venise et partant un peu partout.
Aux répétitions de l'opéra, le poète ne communiquera jamais ses intentions à aucun des acteurs, se disant sagement que ceux-ci feront de toute manière chaque chose à leur guise. Voulant faire écrire un personnage, le poète fera apporter une petite table et une chaise après le changement de scène, et les fera enlever tout de suite après, car il ne faut jamais laisser supposer que la petite table meuble l'endroit où l'on écrit. De même pour les trônes, chaises, divans, bancs, etc. Il introduira des ballets de jardiniers dans les salons royaux et des ballets de courtisans dans les bois. Si le poète moderne s'aperçoit que le musico prononce mal, il ne devra jamais le corriger, car en se reprenant et en parlant franchement, le virtuose pourrait amoindrir le succès des libretto. Le virtuose moderne ne devra pas avoir solfié et ne solfiera jamais. Ceci afin d'éviter le danger d'avoir la voix bien posée, d'attaquer juste, d'aller en mesure, etc., tout cela étant entièrement en dehors de l'usage moderne. Il chantera au théâtre la bouche demi-close, les dents serrées. En somme, il fera son possible pour qu'on ne puisse entendre un seul mot de ce qu'il dit, sans oublier dans les récitatifs de ne pas s'arrêter au point ni aux virgules. Et en scène, avec un autre personnage, aussi longtemps que celui-ci parlera pour les besoins du drame, ou bien chantera un air, le musico saluera les masques dans les loges, sourira aux musiciens, aux figurants, etc., de manière que le public comprenne qu'il est Signor Alipio Forconi, musico, et non pas le prince Zoroastre qu'il est censé représenter. Aussi longtemps que durera la ritournelle de l'air, le virtuose se tournera vers les décors, brisera du tabac, dira aux amis qu'il n'est pas en voix, qu'il est enrhumé, etc. Il jouera selon son caprice, car le virtuose moderne, ne devant point saisir le sens des mots, il ne doit se figer dans aucune attitude ni mouvement. Si le virtuose représente le rôle d'un prisonnier, d'un esclave, etc., il devra paraître bien poudré, couvert de bijoux, le casque bien haut, l'épée et les chaînes bien longues et brillantes, les agitant souvent pour provoquer la pitié du public. Lorsque le virtuose moderne se bat en duel et est blessé au bras, il continuera à faire des gestes avec ce bras et, devant boire du poison, il chantera son air, la coupe à la main, en la retournant, car elle est déjà vide. Il y aura quelques mouvements particuliers de la main, du genou, du pied, qu'il accomplira tour à tour, tout au long de l'opéra. Benedetto Marcello.
Revenons à la Fenice.
C'est dans ce théâtre que le 6 mars 1853, lorsqu'on a entendu ceci, le lendemain du jour où on a entendu cette musique, Giuseppe Verdi a écrit à un ami ceci. Caro Emanuele,
cher Emanuele, la Traviata hier soir, un fiasco. Est-ce ma faute ou celle des chanteurs? L'avenir le dira.
Et puis, cette autre lettre. Caro Ricordi,
cher Ricordi, je l'ai douloureux devoir de te donner une triste nouvelle, mais je ne peux pas faire autrement. La Traviata a fait fiasco. N'en cherchons pas les causes. L'histoire est ainsi.
Addio, addio.
En 1859, 6 ans après le fiasco de la Traviata, Venise recevait la visite d'un hôte illustre parmi tant d'autres autres illustres, Richard Wagner.
Lorsque le 29 août, au coucher du soleil, et de la digue du chemin de fer, nous aperçûmes Venise dressée sur le miroir de ses eaux, Karl eut un mouvement si brusque de joie et d'enthousiasme que son chapeau vola par la fenêtre de la voiture. Je ne voulus pas demeurer en reste, et lançai également le mien par la portière. Nous arrivâmes donc tête nue à Venise. Tout de suite, nous prîmes place dans la gondole qui devait nous transporter à la Piazzetta di San Marco. Le temps s'était subitement obscurci. La vue de la gondole m'effraya, franchement. Malgré tout ce que j'avais entendu dire de ces embarcations peintes, noires sur noires, leur aspect me produisit une surprise désagréable. lorsque, dans la nôtre, il me fallut me glisser sous le drap noir qui lui servait de toit, j'eus l'impression de me trouver dans un convoi de pestiférés. Karl m'assura qu'il en arrivait de même à tout le monde, mais qu'on s'y habituait bien vite. Puis ce fut le très long trajet du sinueux Grand Canal. Rien de ce que je voyais ne parvenait à m'ôter mon inquiétude. Là où Karl admirait la Cadoro de Fanny Elsler ou tout autre palais célèbre, moi, je n'apercevais que les ruines gisant entre ces édifices intéressants. Je finis par ne plus rien dire et consentis à débarquer à la fameuse Piazzetta pour visiter le palais des Doges. Mais je me réservais de l'admirer quand je serais débarrassé de l'humeur mélancolique où m'avait jeté mon arrivée à Venise. À l'hôtel Danieli, où nous descendîmes, on nous donna de tristes chambres ayant vue sur de petits canaux étroits. Aussi, dès le lendemain matin, j'allais à la recherche d'un logis qui me convint pour un long séjour. J'appris que, dans l'un des trois palais Giustiniani, non loin du Palazzo Foscari, il y aura quelque chose à louer, car les étrangers l'évitaient en hiver à cause de sa mauvaise exposition. J'y trouvais en effet des pièces extraordinairement vastes, dont la plupart, m'assura-t-on, demeureraient inoccupées. Je me réservais donc un énorme et imposant salon, avec une grande chambre à coucher contiguë, et me hâtais d'y faire monter mes bagages. Et le 30 août, au soir, je pouvais me dire que j'étais fixé à Venise. Pouvoir travailler sans être dérangé avait été l'unique préoccupation de mon choix. J'écrivis aussitôt à Zurich pour qu'on m'expédiât mon érard et mon lit. Et je me doutais bien que j'apprendrais à connaître le froid à Venise. De plus, les murs grisâtres de mon salon me devinrent bientôt insupportables à l'œil. Ils s'accordaient trop mal, me semblait-il, avec un plafond de bon goût entièrement peint al fresco. Je me décidai donc à les faire recouvrir d'une tapisserie fort ordinaire, mais de couleur rouge foncé. Ce travail amena à bien du remue-ménage. Cependant, ces désagréments me paraissaient supportables quand, de mon balcon, j'admirais avec un plaisir grandissant le superbe canal et que je me disais « C'est ici que j'achèverai Tristan. » Pendant une nuit d'insomnie, étant allé sur mon balcon vers 3 heures du matin, j'entendis pour la première fois le célèbre et ancien chant des gondoliers. Je crus reconnaître que le premier appel, rauque et plaintif, qui résonna dans la nuit silencieuse, venait du Rialto, situé à une distance d'un quart d'heure environ. Une mélopée analogue lui répondit de plus loin encore. Ce dialogue extraordinaire et mélancolique continua ainsi par intervalles parfois assez longs, et j'en fus si impressionné qu'il me fut impossible de fixer dans ma mémoire les quelques notes sans doute fort simples qui le modulaient. Un autre soir, je compris d'expérience toute la poésie de ce chant populaire. Je rentrai fort tard, en gondole, par les canaux sombres. Tout à coup, la lune se leva, éclairant et les palais indescriptibles, et mon gondolier qui maniait lentement son énorme rame, debout à l'arrière de ma barque. Au même instant, celui-ci poussa un cri qui ressemblait presque à un hurlement d'animal. C'était un profond gémissement qui montait en crescendo jusqu'à un « Oh !» prolongé et finissait par la simple exclamation « Venezia !» Il venait encore quelque chose, mais j'avais reçu une commotion si violente de ce cri que je ne pus me rappeler le reste. Les sensations que j'éprouvais là furent caractéristiques et ne s'effacèrent point de tout mon séjour à Venise. Elles sont demeurées en moi jusqu'à l'achèvement du deuxième acte de Tristan. Et peut-être m'ont-elles suggéré les sons plaintifs et traînants du chalumeau au commencement du troisième acte. Richard Wagner.
les cloches de San Marco donnèrent le signal de la salutation angélique. Et leurs éclats puissants se dilatèrent en larges ondes sur la lagune encore sanglante qu'ils laissaient au pouvoir de l'ombre et de la mort. De San Giorgio Maggiore, de San Giorgio dei Greci, de San Giorgio degli Schiavoni, de San Giovanni in Bragora, de San Moise, de la Salute, du Redentore et de proche en proche, par tout le domaine de l'évangéliste, jusqu'aux tours écartées de la Madonna dell'Orto, de San Giobbe, de Sant'Andrea, les voix du bronze se répondirent, se confondirent en un seul cœur immense, étendirent sur le muet assemblage des pierres et des eaux une seule coupole immense de métal invisible, dont les vibrations semblèrent communiquer avec le scintillement des premières étoiles. Ils frissonnèrent tous les deux lorsque la gondole, passant sous l'arche du pont qui regardait l'île de San Michele, pénétra dans l'humidité du rio obscur et rasa les péotes noires qui pourrissaient le long des murs corrodés. Des campaniles voisins, de San Lazzaro, de San Canciano, de San Giovanni Paolo, de Santa Maria dei Miracoli, de Santa Maria del Pianto, répondirent d'autres voix. Et le bourdonnement sur leur tête était si fort qu'ils croyaient le sentir dans la racine de leurs cheveux comme un frisson de leur propre chair. « C'est toi, Daniele !» Stelio avait reconnu à la porte de sa maison, sur la fondamenta Sanudo, la figure de Daniele Glauro. « Ah, Stelio, je t'attendais !» lui cria dans la rafale des sons la voix haletante de son ami. « Richard Wagner est mort !» Le monde parut diminuer de valeur. Gabriele D'Annunzio.
À cette fenêtre qui donne sur un petit jardin, envahi de plantes sauvages, par le lait duquel nous voyons l'eau mouvante du canal et les hautes et nobles façades des palais. Dans cette chambre, le 13 février 1883, Richard Wagner, qui était assis sur son divan, s'est levé et venu s'accouder une dernière fois, a jeté un coup d'œil à ce paysage de la beauté terrestre qu'il ne devait plus voir et a rendu le dernier soupir. Cette chambre, vide aujourd'hui, mais sur les murs de laquelle on retrouve encore la tenture rose que Wagner y avait fait accrocher, cette chambre aujourd'hui est pleine de cette musique qu'il y avait créée et qu'il écoutait. Et je crois que pour le visiteur d'aujourd'hui, se trouver en face de ce paysage, être dans le voisinage de cette ombre qui certainement n'a jamais quitté cette maison, retrouver en soi, entendre en soi toute cette musique qu'un pareil lieu évoque, cela nous ramène à cette conception funèbre de Venise qui se vérifie une fois de plus, puisque ici encore, comme dans « La mort à Venise » de Thomas Mann, nous retrouvons cette association étroite de la vie et de la mort, mais non pas d'une mort définitive, car à Venise, ville de l'eau, rien ne disparaît complètement, rien ne se pétrifie, rien ne s'enferme dans la terre. Tout participe encore de la nature de l'eau, du ciel et des nuages. Et cette musique que dans notre mémoire nous écoutons encore aujourd'hui, c'est la musique de l'eau, des nuages, du ciel et de l'âme qui, au dernier moment de Richard Wagner, a rempli ce pauvre cœur qui venait de battre son dernier battement.
Mais nous avons non pas un témoin, bien sûr, de la mort de Wagner, mais nous avons le fils d'un témoin.
Pietro Martone, dont le père, portier du palais Vendramin, reçut dans ses bras Richard Wagner sur le point de mourir, nous rapporte c'est ici qu'il a rendu le dernier soupir. Il venait de revenir de chez la comtesse Morosini où il s'était rendu en visite. Il est allé dans la salle à manger et après avoir mangé, il s'est trouvé mal et il est venu ici. D'ici, il est allé sur le lit. La Colma est venue, Colma a appelé papa. Papa a couru ici, il n'y avait plus rien à faire. Il l'a fait expirer.
Colma a chiamato Papita. Papita era corso qui, ma ormai non niente da fare, lui è respirato.
C'était Heure Vénitienne, l'opéra à Venise, une émission proposée et réalisée par Bronislav Horowitz, avec Marcel Brion et René Huyghe de l'Académie française, avec des textes de Carlo Goldoni, Benedetto Marcello, Richard Wagner et des œuvres musicales de Francesco Cavalli, Claudio Monteverdi, Baldassaro Galuppi, Giuseppe Verdi, Richard Wagner. Première diffusion sur France Culture le 2 octobre 1969. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.